Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel, qui sera continuée avec Apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la voix de l'Indonésie. Voici le journal d'aujourd'hui. Le président affirme que les Sarrasins sont terribles et devraient être inquiétés. Visiter l'exposition de photos sur l'infrastructure, le président espère créer l'optimisme communautaire sur le développement. Le groupe de danseurs de l'Université d'Indonésie a remporté le championnat du Grand Prix mondial de folklore 2017. L'Institution des sciences indonésiennes et l'UNESCO optimisent les résultats de la recherche sur les politiques liées à la réduction des risques de catastrophes. Le ministère des Affaires maritimes et des pêches prépare un laboratoire de santé des poissons de classe mondiale. L'Agence de l'économie créative, le Songket, doit être développée. Chers auditeurs et auditrices, voici le journal complet. Le président Joko Widodo a évalué le groupe Sarrasins qui a répandu des fausses informations de la cyberspace comme un groupe terrible. Le président a ordonné à la police d'enquêter profondément sur ce groupe jusqu'à ceux qui soutiennent l'existence du groupe. Il a été annoncé par le président Joko Widodo après avoir assisté à une exposition photographique du développement d'infrastructures à Monas, Jakarta, dimanche après-midi. Selon le président, la diffusion d'informations fausses est un phénomène qui se produit non seulement en Indonésie, mais aussi dans divers pays dans le monde. Le président a déclaré que les médias sociaux utilisés individuellement pourraient conduire à des désunions dans la société. De plus, l'utilisation de groupes organisés comme les Sarrasins craint de mettre en danger l'état unitaire de la République Indonésie. Tous les pays connaissent cette situation. En raison de l'ouverture des médias sociaux, tous les pays la connaissent. L'utilisation des médias sociaux est individuelle. Les individus sont très dommageables si l'information n'est pas vraie, fausse et même calomnie et de plus organisée. C'est horrible. Si on le laisse horriblement. En outre, ils ont jusqu'à milliers de comptes, des centaines de milliers. S'ils disent des choses positives, transmettent l'optimisme, invitent les gens à construire, à faire le bien, à maintenir la politesse, ça va. Mais quand ils veulent désunir, répandre les choses qui calomnient, dénoncent les autres, nuisibles à l'état unitaire de la République Indonésie. J'ai ordonné au chef de police d'être inquiété, non seulement les Sarrasins, mais qui est-ce qui a fourni le message? Qui paie? Et en effet, ce problème doit être résolu. La police révèle un groupe épandeur de la haine et le canular, il y a quelque temps. Ce groupe s'appelle Sarrasins et télécharge des contenus de haine liés à l'ethnie, la religion raciale et intergroupes basés sur des commandes. Selon la police, le groupe Sarrasins diffuse le contenu sur la base des raisons économiques. Les sarrasins rendez-vous des contenus faux et l'affirmation haineuse à l'aide de centaines de comptes de médias sociaux qu'ils sont possédés. Selon la police, dans l'exécution du crime, le groupe a préparé une proposition qui a été distribuée aux clients. Chaque proposition est offerte avec le prix de dizaines de millions de rupias. Jusqu'à présent, la police continue d'approfondir qui commande le contenu ou les nouvelles à télécharger sur les groupes ou le site Sarrazin. Le président Joko Widodo a assisté à une exposition photographique du progrès du développement de l'infrastructure de l'Indonésie et de l'infographie les plus longs, tenu par le ministère coordonnateur des affaires économiques à Monas, Jakarta, dimanche après-midi. Accompagné par un certain nombre de ministres du cabinet de travail, le président a regardé les photographies du développement des infrastructures dans plusieurs régions exposées. Le président a déclaré aux journalistes que l'exposition de photos visait à donner l'information au public sur le développement d'infrastructures effectuées dans toutes les régions d'Indonésie. Le président Joko Widodo a expliqué, en le montrant au public par des moyens de photos, le gouvernement a l'intention de développer l'optimisme dans la communauté pour le processus de développement en cours. Cela montre que le développement des infrastructures sur le terrain est presque terminé. Certains sont en cours de 30%, de 60%, de 70% et certains sont terminés. Ce sont les coups de ces photographes que nous voulons montrer. Il y a beaucoup d'images que je n'ai pas vues. Plus de la moitié qui est exposée. Je pense que j'ai vu tout. Presque la moitié que nous n'avons pas vu. Je n'ai pas vu de réservoirs, de ports maritimes, de petits aéroports et d'autoroutes. Je pense qu'en montrant les progrès de notre développement de l'infrastructure, nous voulons générer de l'optimisme que les progrès sont existants et réels sur le terrain. Comme le public le sait, le gouvernement actuel de Joko Widodo et Yusuf Kalla construit intensivement des infrastructures sur tout le territoire de l'Indonésie. En 2017, il existe 245 projets de développement ainsi que deux programmes de développement qui sont inclus dans les projets stratégiques nationaux basés sur le règlement présidentiel numéro 58 de l'année 2017. Ce projet stratégique a une valeur d'investissement de plus de 4 000 trillions rupias dont le financement provient du budget d'État, des entreprises publiques et des gouvernements régionaux, ainsi que de la participation des partis privés. Le groupe de danseurs Kencana Pradipa, qui se composait des étudiants de la faculté de psychologie de l'Université d'Indonésie, a émergé comme le gagnant dans la finale du championnat du Grand Prix mondial de folklore 2017 à Nesebar, en Bulgarie, le dimanche, heure locale. Le groupe avait déjà gagné dans deux catégories différentes, à savoir les ensembles folkloriques et le folklore instrumental. L'ambassadeur d'Indonésie en Bulgarie, Sri Astari Rajit, qui était présente à la finale du championnat, a exprimé dans son discours son appréciation à l'équipe de l'Université d'Indonésie qui a réussi à devenir le champion dans le championnat du Grand Prix mondial de folklore 2017. Je tiens à féliciter, j'ai été tellement impressionné et je suis tellement fier de vous tous. Et je tiens également à remercier le comité d'organisateurs de l'Association européenne du folklore pour avoir organisé un tel événement magnifique, et ainsi pour tous les danseurs du monde qui ont participé. L'ambassadeur Sri Astari Rajit a également exprimé sa fierté au groupe de danse des étudiants de l'Université d'Indonésie. Ils ont réussi à battre les autres 10 pays dans le final en réalisant la danse de Saman d'origine Aceh. L'Institution des sciences indonésiennes, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou UNESCO, a organisé un atelier intitulé « L'application d'un cadre analytique pour la conception des politiques inclusives » dans l'espace Widyagraha, Jakarta, lundi, le 29 août 2017. Cette activité vise à optimiser les résultats de la recherche en matière de la réduction des risques de catastrophes et de la protection sociale afin de pouvoir servir de base à la formulation des politiques publiques inclusives, y compris les groupes vulnérables, les personnes handicapées et les pauvres. Le chef du Centre de recherche de population de l'Institution des sciences indonésiennes, Sri Sunarti, a dit lors de l'atelier sur les médias que l'Indonésie était très vulnérable géologiquement et géographiquement contre les catastrophes naturelles. L'Indonésie risque beaucoup de catastrophes naturelles, notamment pour les résidents vivant à la zone côtière. Selon Sri Sunarti, les résultats de la recherche de l'institution devraient être appliqués au gouvernement de l'Indonésie pour réduire le risque de catastrophe. L'événement a également été suivi par le représentant du bureau de l'UNESCO à Jakarta, Irakli Khodeli, le chercheur de population de l'Institution des sciences indonésiennes, Denny Hidayati, les académiciens et le représentant du ministère et institution qui concernent à cet événement. Le ministère des Affaires maritimes et des pêches prépare deux candidats au laboratoire de référence de l'Agence mondiale de la santé animale dans le domaine de la santé des poissons en tant que référence internationale. Le haut fonctionnaire du ministère des Affaires maritimes et des pêches, Slamet Subiakto, dans un communiqué de presse à Jakarta, a déclaré lundi que le soutien de l'Agence mondiale de la santé animale pour l'Indonésie pour faciliter du laboratoire en tant que référence internationale aura un impact très positif sur l'amélioration de la compétitivité des produits aquacoles, surtout les poissons d'ornement de koi et de crevettes sur le marché mondial. Selon Slamet Subiakto, l'Agence mondiale de la santé animale a également considéré que, en tant que deuxième pays de pêche culturelle au monde, l'Indonésie joue un rôle stratégique dans le soutien de la sécurité alimentaire à l'avenir. Il a mentionné que les deux laboratoires sont un laboratoire de santé de poissons au centre d'aquaculture d'Otus à Sukabumi, en tant que laboratoire pour la détection de la maladie du virus koi herpeste, et l'autre est un laboratoire de santé de poissons au centre d'aquaculture des pêches de Salé, à Situbondo pour la référence de la maladie de la crevette. Le chef de l'Agence de l'économie créative, Triawan Munaf, a dit que le sans-quête était l'un des sous-secteurs économiques créatifs qui devait être développé en raison de la valeur économique. Le président Joko Widodo et Madame Iriana Joko Widodo, au jour de la naissance de Pancasila, ont ordonné au ministre et au gouvernement de porter des vêtements traditionnels, a déclaré Triawan Munaf au Carnival international des sans-quêtes Sawalunto 2017 à Sawalunto, Sumatra Ouest, dimanche. À la journée de l'indépendance du 17 août, le président, le vice-président, les hauts fonctionnaires et les invités ont porté des vêtements traditionnels de l'Indonésie. Sangket est le produit le plus utilisé. Le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré que le ministère du Commerce souhaite que tous les produits indonésiens puissent concurrencer sur le marché international. Sangket Sawalunto est l'un des produits qui doivent être développés. Maintenant, ce ministère donne l'assistance à de petites et moyennes entreprises à Sawalunto afin de pouvoir aller international. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé L'Indonésie se méfie des sites qui propagent la haine. Récemment, le monde cyber en Indonésie a été surpris par le déploiement du syndicat Sarasan qui est soupçonné de propager la haine ou le discours de haine dans les médias sociaux. Sur la base de l'enquête de la police, via la recherche forensique numérique, le groupe épandeur de provocations liées à la tribu, religion, la race et intergroupe ou Sara sur les médias sociaux ont 2000 des comptes de médias sociaux qui ont développé un 800 000 comptes utilisés pour diffuser le contenu haineux. Sarasen est un distributeur de contenus de provocation liés à la tribu, religion et intergroupe dans les médias sociaux. La police a arrêté 3 gestionnaires sarasens par les médias sociaux comme Facebook, Twitter et Sarasen diffuse des cours en haine. En fait, Sarasen gère un site de nouvelles spéciales pour satisfaire le client. La police a confirmé que le contenu de Sarah qui est diffusé le syndicat Sarasen est une commande d'un parti particulier. Il facture des dizaines de millions pour chaque contenu qu'il produit et distribue. Selon la police, le syndicat Sarasen a pratiqué le business de discours de haine à travers divers comptes de médias sociaux et des pages dans le cyberespace depuis novembre 2015, y compris la diffusion de fausses nouvelles ou canulars aux élections de gouverneur de Jakarta. Les membres de Sarasen peuvent bien créer de faux comptes anonymes, semi-anonymes, réels et peuvent restaurer les comptes qui ont été bloqués avec le travail de manière est organisé. Sarasen est différent d'autres comptes comme par exemple Instagram qui a fait depuis longtemps des comptes de haine. Sarasen a essayé de cadrer un événement ou cadrage et donne des informations erronées constamment de sorte que les gens ordinaires le considèrent comme une vérité. Les conditions politiques en Indonésie sont actuellement considérées comme la cause de la croissance de la propagation de la haine dans le cyberespace ou connu sous le nom de haine électronique. Le réchauffement de la situation politique à la veille de l'élection présidentielle, bien qu'il ne se tiendra qu'en 2019, puisse être ressenti à partir de maintenant avec le soutien aux plusieurs partis politiques contre certains candidats. Les gens d'affaires IET ou de NS électronique prennent avantage pour la provocation de hoax qui sont continuellement produits à l'ordre. Ils diffusent des contenus qui dénoncent ethniques, religieux, races ou politiques qui sont contraires aux clients. Et les syndicats de propagation de contenus de haine comme Sarasen ont énormément endommagement de l'unité du pays. Alors, pas étonnant que le gouvernement, par l'intermédiaire de la police nationale indonésienne, a rapidement capturé les auteurs impliqués dans cette entreprise de haine électronique. 3 suspects de Sarasen seront facturés en vertu de la loi sur l'information et la transaction électronique, ou ITE, pour les discours de haine avec diffamation. Au milieu de folks d'information, le public devrait être plus sage dans le filtrage et la diffusion de l'information et toujours faire une confirmation des problèmes qui se propagent. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 28 août 1963, Martin Luther King Jr. a prononcé son discours célèbre « J'ai un rêve ». « J'ai un rêve » est un discours de 17 minutes de Martin Luther King Jr., ce qui contenait des appels à l'égalité raciale et la fin de la discrimination. Son discours a été prononcé au milieu de la parade à Washington pour le travail et la liberté le 28 août 1963, était un moment décisif dans l'histoire du mouvement des droits civils américains. Le discours a été fait devant plus de 200 000 partisans des droits civils. Le discours a été classé dans le discours le plus célèbre du XXe siècle aux États-Unis, selon un sondage de scolarité de l'Horizon de 1999. Le 28 août 1990, le Koweït devient la 19e province de l'Irak. après avoir mené une invasion militaire de l'Irak pendant plusieurs semaines dans le pays voisin, l'Irak a réclamé finalement le Koweït fait partie des 19e provinces le 28 août 1990. L'invasion irakienne au Koweït vise à prendre en charge la richesse pétrolière du Koweït. Mais cette invasion obtient la réaction négative du monde international. Le monde international et les Nations Unies ont condamné et ont ordonné l'Irak à quitter le Koweït. Quelques pays dirigés par les États-Unis ont envoyé des troupes dans le golfe Persique dans le but d'expulser l'Irak. Enfin, les forces d'alliance dirigées par les Nations Unies ont attaqué l'Irak, qui a provoqué des dommages énormes aux troupes et au peuple irakien. Et le 28 février 1991, la fin de l'annexion de l'Irak au Koweït. Le 28 août 1993, Galileo, la sonde spatiale en orbite autour de l'astéroïde. Le vaisseau spatial américain Galileo, en chemin vers Jupiter, découvre la première lune d'un astéroïde. Cette découverte est phénoménale parce qu'il est rarement un astéroïde à une lune ou satellite. L'astéroïde de 58 km de long et 23 km de large possède un minuscule satellite de 1 km de diamètre qui gravite à environ 100 km de sa surface. Et ensuite, les experts ont décidé de nommer Dactyle. Dactyle est le nom d'une divinité grecque vivant sur le mont Ida. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Secrétaire, voici donc la mise au point et pour le titre. L'Indonésie et la Malaisie sont prêtes à approvisionner l'huile de palme rouge ou CPO à la Chine. L'Indonésie et la Malaisie sont prêtes à coopérer pour répondre aux besoins de l'huile de palme rouge ou CPO pour la République populaire de Chine. Les deux plus grands producteurs de CPO au monde soutiennent la politique du gouvernement chinois sur l'application du programme de biodiesel de mélange à 5% avec du diesel ou B5, comme un engagement à réduire les émissions de carbone, comme l'a publié Média Indonésia vendredi le 25 août. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, après avoir rencontré le ministre de l'Industrie des Plantations et des Produits de la Malaisie, Datuk Sri Masikeng, à Putrajaya, Malaisie, mercredi le 23 août, a déclaré que sa partie a convenu d'encourager la République populaire de Chine à utiliser B5 pour réduire ainsi le déficit commercial avec l'Indonésie et la Malaisie, ainsi que comme l'énergie qui est assez respectueuse de l'environnement. Airlangga Hartarto s'attend à ce que l'utilisation du biodiesel en Chine devienne un marché potentiel pour accroître l'exportation de produits d'huile de palme indonésien, même une opportunité pour les hommes d'affaires de l'industrie nationale d'investir dans la construction d'une usine de biodiesel. Le ministre de l'Industrie Airlangga Hartarto a expliqué que l'huile de palme est l'un des produits stratégiques de l'Indonésie et de la Malaisie. C'est-à-dire, le succès ou l'échec de ces produits est dans les mains des deux pays en tant que fournisseurs à 90% de CPO sur le marché mondial. Par conséquent, le ministère de l'Industrie se concentre sur l'encouragement du développement de l'industrie des CPO dans le pays à travers un aval afin d'accroître la valeur ajoutée de la haute économie. L'Indonésie produit CPO de 35 millions de tonnes en 2016. Erlangga Hartarto a ajouté que lors de la réunion, les deux parties ont également convenu de renforcer le conseil des pays producteurs de palmiers. Il encourage que ce conseil bénéficie pour le développement de la valeur ajoutée ou en aval dans le secteur de l'industrie du CPO. Le conseil des pays producteurs de palmiers à huile invitera cet autre pays à se joindre en tant que producteur de CPO, à savoir la Thaïlande, la Colombie, le Nigeria, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Côte d'Ivoire, le Honduras et le Guatemala. L'entrée de ces pays pourrait avoir un impact positif sur le produit mondial du CPO. Pendant ce temps, à cette occasion, le ministre de l'Industrie des Plantations et des Produits de la Malaisie a déclaré que, comme pays producteur d'huile de palme, il est nécessaire de renforcer l'alliance afin de lutter contre la campagne négative et la barrière commerciale qui menace ce produit. Les deux pays produisent 85% du CPO total et ont rempli 91,2% des marchés d'exploitation du monde, ce qui fait l'Indonésie et la Malaisie sont les principaux acteurs mondiaux de l'industrie de l'huile de palme. Selon Masih Kong, l'Indonésie et la Malaisie souligneront l'importance du Conseil des pays producteurs de l'huile de palme pour le développement, la promotion et le renforcement de la coopération dans le secteur de l'industrie de l'huile de palme. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
Le président Joko Widodo a évalué le groupe Sarrazin qui a répandu des fausses informations de la cyberspace comme un groupe terrible. Le président a ordonné à la police d'enquêter profondément sur ce groupe jusqu'à ce qu'ils soutiennent l'existence du groupe. Il a été annoncé par le président Joko Widodo après avoir assisté à une exposition photographique du développement d'infrastructures à Monas, Jakarta, dimanche après-midi. Selon le président, la diffusion d'informations fausses est un phénomène qui se produit non seulement en Indonésie, mais aussi dans divers pays dans le monde. Le président a déclaré que les médias sociaux utilisés individuellement pourraient conduire à des désunions dans la société. De plus, l'utilisation de groupes organisés comme les Sarrazin craint de mettre en danger l'état unitaire de la République d'Indonésie.
Semua negara mengalami ini karena keterbukaan media sosial.
Tous les pays connaissent cette situation. À raison de l'ouverture des médias sociaux, tous les pays la connaissent. L'utilisation des médias sociaux est individuelle. Les individus sont très dommageables si l'information n'est pas vraie, fausse et même calomnie et des plus organisées. C'est horrible. Si on le laisse horriblement. En outre, ils ont jusqu'à milliers de comptes, des centaines de milliers. S'ils disent des choses positives, transmettent l'optimisme, invitent les gens à construire, à faire le bien, à maintenir la politesse, ça va. Mais quand ils veulent désunir, répandre les choses qui calomnient, dénoncent les autres, nuisibles à l'état unitaire de la République Indonésie. J'ai ordonné au chef de police d'être inquiété, non seulement le Sarrazin, mais qui est-ce qui a fourni le message? Qui paie? Et en effet, ce problème doit être résolu. La police révèle un groupe épandeur de la haine et le canular, il y a quelque temps. Ce groupe s'appelle Sarrazin et télécharge des contenus de haine liés à l'ethnie, la religion raciale et intergroupe basée sur des commandes. Selon la police, le groupe Sarrazin diffuse les contenus sur la base des raisons économiques. Les Sarrazin diffusent des contenus faux et l'affirmation haineuse à l'aide de centaines de comptes de médias sociaux qu'ils sont possédés. Selon la police, dans l'exécution du crime, le groupe a préparé une proposition qui a été distribuée aux clients. Chaque proposition est offerte avec le prix de dizaines de millions de rupias. Jusqu'à présent, la police continue d'approfondir qui commande le contenu ou les nouvelles à télécharger sur les groupes ou le site Sarrazin. Le président Joko Widodo a assisté à une exposition photographique du progrès du développement de l'infrastructure de l'Indonésie et de l'infographie les plus longs, tenu par le ministère coordonnateur des affaires économiques à Monas, Jakarta, dimanche après-midi. Accompagné par un certain nombre de ministres du cabinet de travail, le président a regardé les photographies du développement des infrastructures dans plusieurs régions exposées. Le président a déclaré aux journalistes que l'exposition de photos visait à donner l'information au public sur le développement d'infrastructures effectuées dans toutes les régions d'Indonésie. Le président du Widodo a expliqué, en le montrant au public par des moyens de photos, le gouvernement a l'intention de développer l'optimisme dans la communauté pour le processus de développement en cours. Cela montre que le développement des infrastructures sur le terrain est presque terminé. Certains sont encore de 30%, de 60%, de 70% et certains sont terminés. Ce sont les coups de ces photographes que nous voulons montrer. Il y a beaucoup d'images que je n'ai pas vues. Plus de la moitié qui est exposée. Je pense que j'ai vu tout. Presque la moitié que nous n'avons pas vu. Je n'ai pas vu de réservoirs, de ports maritimes, de petits aéroports et d'autoroutes. Je pense qu'en montrant les progrès de notre développement de l'infrastructure, nous voulons générer de l'optimisme que les progrès sont existants et réels sur le terrain. Comme le public le sait, le gouvernement actuel de Joko Widodo et Yusuf Kalla construit intensivement des infrastructures sur tout le territoire de l'Indonésie. En 2017, il existe 245 projets de développement ainsi que deux programmes de développement qui sont inclus dans les projets stratégiques nationaux basés sur le règlement présidentiel numéro 58 de l'année 2017. Ce projet stratégique a une valeur d'investissement de plus de 4 000 trillions rupiah dont le financement provient du budget d'État, des entreprises publiques et des gouvernements régionaux, ainsi que de la participation des parties privées. Le groupe de danseurs Kencana Pradipa, qui se composait des étudiants de la faculté de psychologie de l'Université d'Indonésie, a émergé comme le gagnant dans la finale du championnat du Grand Prix mondial de folklore 2017 à Nesebar, en Bulgarie, le dimanche, heure locale. Le groupe avait déjà gagné dans deux catégories différentes, à savoir les ensembles folkloriques et le folklore instrumental. L'ambassadeur d'Indonésie en Bulgarie, Sri Astari Rajit, qui était présente à la finale du championnat, a exprimé dans son discours son appréciation à l'équipe de l'Université d'Indonésie qui a réussi à devenir le champion dans le championnat du Grand Prix mondial de folklore 2017. Je tiens à féliciter, j'ai été tellement impressionné et je suis tellement fier de vous tous. Et je tiens également à remercier le comité d'organisateurs de l'Association européenne du folklore pour avoir organisé un tel événement magnifique. Et ainsi pour tous les danseurs du monde qui ont participé. L'ambassadeur Sri Astari Rajit a également exprimé sa fierté au groupe de danse des étudiants de l'Université d'Indonésie. Ils ont réussi à battre les autres 10 pays dans le final en réalisant la danse de Saman d'origine Aceh. L'institution des sciences indonésiennes, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou UNESCO, a organisé un atelier intitulé « L'application d'un cadre analytique pour la conception des politiques inclusives dans l'espace » Widyagraha, Jakarta, lundi, le 29 août 2017. Cette activité vise à optimiser les résultats de la recherche en matière de la réduction des risques de catastrophes et de la protection sociale afin de pouvoir servir de base à la formulation des politiques publiques inclusives, y compris les groupes vulnérables, les personnes handicapées et les pauvres. Le chef du Centre de recherche de population de l'Institution des sciences indonésiennes, Sri Sunarti, a dit lors de l'atelier sur les médias que l'Indonésie était très vulnérable géologiquement et géographiquement contre les catastrophes naturelles. L'Indonésie risque beaucoup de catastrophes naturelles, notamment pour les résidents vivant à la zone côtière. Selon Sri Sunarti, les résultats de la recherche de l'institution devraient être appliqués au gouvernement de l'Indonésie pour réduire le risque de catastrophe. L'événement a également été suivi par le représentant du bureau de l'UNESCO à Jakarta, Irakli Khodeli, le chercheur de population de l'institution des sciences indonésiennes, Denny Hidayati, les académiciens et le représentant du ministère et institution qui concerne à cet événement. Le ministère des Affaires maritimes et des pêches prépare deux candidats au laboratoire de référence de l'Agence mondiale de la santé animale dans le domaine de la santé des poissons en tant que référence internationale. Le haut fonctionnaire du ministère des Affaires maritimes et des pêches, Slamet Subiakto, dans un communiqué de presse à Jakarta, a déclaré lundi que le soutien de l'Agence mondiale de la santé animale pour l'Indonésie, pour faciliter du laboratoire en tant que référence internationale, aura un impact très positif sur l'amélioration de la compétitivité des produits aquacoles, surtout les poissons d'ornement de koi et de crevettes sur le marché mondial. Selon Slamet Subiakto, l'Agence mondiale de la santé animale a également considéré que, en tant que deuxième pays de pêche culturelle au monde, l'Indonésie joue un rôle stratégique dans le soutien de la sécurité alimentaire à l'avenir. Il a mentionné que les deux laboratoires sont un laboratoire de santé de poissons au centre d'aquaculture d'Otus à Sukabumi, en tant que laboratoire pour la détection de la maladie du virus koi herpest, et l'autre est un laboratoire de santé de poissons au centre d'aquaculture des pêches d'eau salée, à Situbondo pour la référence de la maladie de la crevette. Le chef de l'agence de l'économie créative, Triawan Munaf, a dit que le Songket était l'un des sous-secteurs économiques créatifs qui devait être développé en raison de la valeur économique. Le président Joko Widodo et Madame Iriana Joko Widodo, au jour de la naissance de Pancasila, ont ordonné aux ministres et au gouvernement de porter des vêtements traditionnels, a déclaré Triawan Munaf au Carnival international des Songket Sawahlunto 2017 à Sawahlunto, Sumatra Ouest, dimanche. À la journée de l'indépendance du 17 août, le président, le vice-président, les hauts fonctionnaires et les invités ont porté des vêtements traditionnels de l'Indonésie. Songket est le produit le plus utilisé. Le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré que le ministère du Commerce souhaite que tous les produits indonésiens puissent concurrencer sur le marché international. Songket Sawahlunto est l'un des produits qui doivent être développés. Maintenant, ce ministère donne l'assistance à de petites et moyennes entreprises à Sawahlunto afin de pouvoir aller international. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Voici la rubrique Magazine culturel. Cette fois, nous allons vous inviter à visiter le lac Rana au Molouk. Alors restez avec nous sur La Voix d'Indonésie, le service international de la RRI. Outre par les zones côtes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voi.co.id ou à travers sur RRI Play sur votre téléphone intelligent. L'île de Buhu est la deuxième plus grande île de la province des Moluques après l'île de Seram. Il existe plusieurs rivières dans l'île de Buhu telles que Wayapu au nord et Waimala au sud. L'île est célèbre pour son huile Kajuput. Outre les rivières, l'île de Buru possède également un magnifique lac qui est desservi par la destination touristique excellente. C'est le lac Rana. Le lac Rana est le plus grand lac de la province des Moluques et convient aux touristes qui aiment faire de l'aventure sauvage. Le lac Rana est situé dans l'arrière-pays de l'île Buru à environ 63 km et à 700 mètres au-dessous du niveau de la mer. Pour l'atteindre, vous pouvez accéder au voyage à travers des chemins de choix différents. Tout d'abord, c'est le chemin de l'ouest à travers le village de Wamlana, le district d'Air Buaya, situé à environ 80 km du centre-ville de Namlia, la capitale du district du nord-est de Buru. Le village de Wamlana est accessible en voiture pendant une heure et demie. Et puis, en conduisant une voiture fournie par l'entreprise de bois de Gema Hutan Lestari LTD, vous commencez l'aventure au lac Rana pour environ 43 km. Pendant le voyage, vous pouvez profiter du beau panorama, vous pouvez trouver différents types de plantes et vous traversez plusieurs villages habités par des populations indigènes de l'île de Buru. Une fois que vous arrivez, vous serez accueilli avec la danse sawat comme signe de bienvenue pour les invités. Le deuxième chemin peut être passé à travers le village de Tifu. De la ville de Namlia, vous pouvez utiliser le bateau de vitesse vers le village de Tifu, le district de Lexula, pendant environ 5 heures. Ensuite, le village de Tifu, vous pouvez aller en camion vers le village de Wailo à environ 40 km. Par la suite, vous ne pouvez marcher qu'au lac de Rana pendant environ 6 heures. Au cours de ce voyage, vous pouvez traverser le village d'Andigène de l'île Buru. Une fois que vous êtes arrivé au lac Rana, vous pouvez voyager en bateau et profiter de la beauté de son lac. Si vous voulez vous promener dans le lac Rana, les habitants locaux sont prêts à vous accompagner en voyage jusqu'à ce que vous soyez satisfait avec le prix de 100 000 rupiah. Vous pouvez également visiter le village autour du lac. Il y a Wamamboli, Kaktuan, Erdava, Warujawa, Waimite, Wagrahi et le village de Wairman. Dans ces villages, vous pouvez profiter de la cuisine locale, à savoir divers types d'ignam avec des poissons grillés et cholo-cholo, un condiment chaud et épicé au sambal, typique de Moluques. Musique. Le lac Rana a de beaux paysages ainsi que la tribu Rana qui vivent encore dans leur culture traditionnelle. Le lac est considéré comme un lieu sacré par les habitants de l'île Buru. Avant que les religions viennent à l'île de Buru, les peuples indigènes ont déjà cru aux ancêtres. Selon la croyance, leurs ancêtres, qui sont considérés comme des dieux, vivent au lac Rana et au mont de Daté. Par conséquent, le lac Rana et le mont Daté sont la réincarnation des ancêtres. Serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le lac de Rana au Moluques ». Demain, nous vous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est acara lamaran ou en français proposition de mariage. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Acara lamaran. acara lamaran, en français, proposition de mariage. Menemani, menemani, en français, accompagner. Kemana, kemana, en français, où. Minggu depan, semaine prochaine. Anak, anak, en français, enfant. Keperluan, keperluan, en français, nécessité. Membawa, membawa, en français, apporter. Anak laki-laki, anak laki-laki, en français, fils. Kue, kue, en français, gâteau. Buah, buah, en français, fruit. Cincin, cincin, en français, bague ou anneau. Makanan tradisional, en français, nourriture traditionnelle. Berasal dari, en français, venir de. Sumatera Barat, Sumatera Barat, en français, Sumatra de l'Ouest. Keluarga, keluarga, en français, famille. Berkenalan, berkenalan, en français, faire connaissance. Pihak perempuan, en français, la famille de la mariée. Menjawab, menjawab, en français, répondre. Menentukan, menentukan, en français, décider. Hari pernikahan, en français, jour de mariage. Makan bersama, en français, manger ensemble. Ikut, ikut, en français, suivre. Sahabat, sahabat, en français, ami. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Acara lamaran ou en langue française proposition de mariage. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Erna A et Ika B au bureau. A. Ika, bisakah pulang kantor kamu menemani saya? Je répète. Ika, bisakah pulang kantor kamu menemani saya? En français, Ika, pouvez-vous m'accompagner après la pause du bureau? B. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? En français, où allez-vous? A. Minggu depan anak saya mau mengadakan lamaran. Minggu depan anak saya mau mengadakan lamaran. En français, je veux tenir une proposition de mariage pour mon fils. A. Saya mau memesan keperluan acara lamaran. Je répète. Saya mau memesan keperluan acara lamaran. En français, je veux commander des choses pour la nécessité de la proposition. A. Apa saja yang harus dibawa? Je répète. Apa saja yang harus dibawa? En français, tout ce qui devrait être apporté. B. Pada waktu acara lamaran, biasanya hanya membawa kue, buah, dan cincin. Je répète. Pada waktu acara lamaran, biasanya hanya membawa kue, buah, dan cincin. En français, habituellement, pour la proposition de mariage, le côté du marié n'apporte que des gâteaux, des fruits et les anneaux. B. Tapi, karena saya berasal dari Sumatera Barat, saya juga mau membawa makanan tradisional, yaitu rendang. Je répète. Tapi karena saya berasal dari Sumatera Barat, saya juga mau membawa makanan tradisional yaitu rendang. En français, parce que je viens de Sumatra de l'Ouest, je veux aussi apporter rendang, la nourriture traditionnelle de la région. A. pada waktu lamaran apa saja yang dilakukan? Pada waktu lamaran apa saja yang dilakukan? En français, qu'est-ce qui se fait généralement à la proposition? B. Biasanya masing-masing keluarga akan berkenalan. Biasanya masing-masing keluarga akan berkenalan. En français, habituellement chaque famille fera la connaissance. B. Kemudian melamar. Kemudian melamar. En français, ensuite proposer pour le mariage. B. Pihak perempuan menjawab lamaran. Pihak perempuan menjawab lamaran. En français, la famille de la mariée répond ensuite à la proposition. B. Kemudian menentukan hari pernikahan. Kemudian menentukan hari pernikahan. En français, ensuite déterminer le jour du mariage. B. Setelah itu makan bersama. Setelah itu makan bersama. En français, enfin mangeons ensemble. B. Pada waktu acara lamaran saya ikut ya. Pada waktu acara lamaran saya ikut ya. En français, puis-je assister à la journée de la proposition? A. Tentu saja, kamu kan sahabat saya. Tentu saja, kamu kan sahabat saya. En français, bien sûr, tu es mon ami proche, n'est-ce pas? Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique sera utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de La Voix de l'Indonésie, dans le monde entier. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Voici le programme magazine musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences du 9.5 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application RRI Play sur votre smartphone. Chers auditeurs, pour cette édition, je vous présente des chansons de Kroncong chantées par Didi Kempot. Chers auditeurs, voici sa première chanson intitulée « Apa salah dan dosaku » ou en français « Quelle est ma faute et mon péché ?»
Oh,
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.